Ressuscité, mais ça fait un bout quand même. C'est ma fille qui m'a dit ça cette semaine. Ça fait un petit bout qu'il est ressuscité. On fait de la résurrection. C'est ça. OK, alors on est dans le cours Survol d'histoire de l'Église. N'est-ce pas, Mme Larue, M. Châté? On est ensemble dans le cours d'histoire de l'Église. Alors, vous pouvez vous prendre les feuilles de chaque côté et ce matin, on va parler ensemble de la réforme anglaise. Et donc, on va passer du continent, on va traverser en Angleterre ensemble, puis on va survoler très brièvement à peu près 3 siècles pratiquement d'histoire en Angleterre. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de commencer. D'accord? On va se courber dans la prière. Eh bien, éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que nous avons en Église ce matin. Seigneur Jésus, c'est une matinée spéciale pour nous parce que c'est vrai, nous célébrons le fait que tu es ressuscité, Seigneur. Et spécialement ce matin, on veut chérir dans notre cœur ton sacrifice, la puissance de ta résurrection. Le Père a agréé ce merveilleux sacrifice que tu as fait en notre faveur, Seigneur Jésus, et toute notre paix, notre joie, notre espérance, notre repos, notre vie se trouvent dans ton sacrifice et dans ta résurrection. On te demande de nous bénir ensemble ce matin alors que nous survolons l'histoire de ton Église, Seigneur, qui parle de ta grandeur et de ta beauté malgré toutes les hommeries, malgré toutes les erreurs que les hommes peuvent faire et les cœurs fourbes qui peuvent récupérer la foi même. Comme on l'a vu pendant ton propre ministère, Seigneur Jésus, où il y avait toujours des enjeux politiques autour de l'annonce même de la vérité par toutes sortes de partis qui entouraient. On te demande, Père, de bénir cet ensemble, de nous faire grandir, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises pendant le cours. Moi, je vous encourage à voir ça. J'espère, dans le fond, piquer votre curiosité puis vous encourager à vous donner comme un devoir. Peut-être pas cette année. Je sais qu'on promeut pas mal la lecture ici, là, et donc peut-être que c'est trop. Mais le petit précis d'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole. Je dis petit parce que c'est à peu près 250 pages, d'accord? C'est pas une brique de 1000 pages, là. Et ça se lit très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de citations à l'intérieur de ça, des extraits de sources primaires, ça veut dire des lettres écrites par ces gens ou des choses qu'ils ont publiées. Donc, c'est intéressant parce que là, on ne te parle pas d'eux, tu les écoutes te parler d'eux ou te parler de ce qu'ils croient. Alors, je vous encourage sérieusement à mettre ça comme dans vos lectures à faire. Et vous allez être profondément édifié, je vous le dis. Ce qui pourrait vous troubler, vous remettre en question dans l'histoire de l'Église, parce qu'il y a des moments troublants dans l'histoire de l'Église, ben on les a vus ici. Fait que vous allez les revoir un petit peu, mais après ça, vous allez tirer vraiment aussi toute l'édification qu'il y a à tirer. Je mentionne ça ce matin spécialement parce que, je vous dirais, avec la réforme anglaise, on commence à se concentrer énormément, d'accord? Il me reste 4 dimanches, si je ne me trompe pas avec vous. Et donc, on ne peut pas tout voir. Et comme vous le savez, bien l'histoire du christianisme, c'est un arbre avec de nombreuses branches. Et à un certain moment donné, dans le cours de l'histoire, si on avait un cours sur 3 ans ou sur 2 ans et demi, peut-être qu'on pourrait aller couvrir puis suivre un peu toutes les branches, mais on ne peut pas le faire dans ce contexte-ci. Le précis d'histoire ne le fera pas non plus au complet, mais va beaucoup plus loin. Donc, vous auriez beaucoup plus d'informations avec ça. Mais ici, je m'en vais vers la réforme anglaise. J'espérais pouvoir toucher la réforme française. Si mon cours avait eu 20 semaines, on aurait pu en parler un petit peu. Mais j'ai pas la possibilité de le faire. En même temps, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la réforme anglaise? C'est parce qu'en France, il y en a eu et il n'y en a pas eu de réforme. D'accord? Il y en a eu une. Il a continué à y avoir des églises évangéliques qui annonçaient l'Évangile. Elles étaient vraiment marginales, mais disons que le massacre de la Saint-Barthélemy est venu couper l'herbe sous le pied aux réformateurs français. Et il y a eu un exode massif qui a suivi cela. Et une bonne partie des meilleures ressources qu'il y avait en France pour propager l'Évangile s'est exilée en Angleterre à ce moment-là. D'accord? Et c'est ce qui fait que lorsque vous regardez la côte est américaine, il y a un grand nombre de villes qui ont des noms francophones. Hein? Ben c'est ça. C'est les persécutions à l'égard des Huguenots en France qui ont amené ces gens-là à aller se réfugier en Angleterre, et eux autres vont intégrer l'Église anglicane, mais après ça, davantage le mouvement des Dissenters avec les Puritains et tout ça. Ça, on va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Et puis, éventuellement, même sous les persécutions dont on va parler ce matin avec Marie la Sanglante, entre autres, Bloody Mary, ils vont s'exiler éventuellement sur la côte est américaine. Et donc, il y a eu un courant, et c'est édifiant de le voir. Il y a eu une réforme en France, mais ça a été une réforme qui est restée marginale. Ça a été une réforme qui est restée, excusez-moi là, le terme, j'ai pas le terme en français, « underground ». Une église cachée, une église marginale. Et c'est très édifiant de le voir parce qu'ils se sont battus très fort pour leur foi. Ils se sont même, dans certains cas, battus au sang. Parce que lorsqu'on va étudier l'histoire des Vaudois, tout ça, il y a eu même des milices qui ont été formées pour réussir à sécuriser certaines régions et pouvoir être en sécurité. Donc j'aurais aimé ça le voir avec vous. C'est édifiant de voir ça. C'est triste de voir les jeux politiques parce que la France aurait pu vraiment prendre un virage majeur avec François de Navarre, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, le massacre de la Saint-Barthélemy, un jeu politique assez vicieux, là. C'est-à-dire qu'on est allé provoquer le roi dans la chambre du roi en allant mettre dans le placard du roi une menace, fausse menace qui viendrait des protestants. Et ça a été l'élément qui a été utilisé pour déclencher le massacre de la Saint-Barthélemy. Et en 24 heures, des milliers de chrétiens ont été massacrés littéralement. Vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, massacre de Saint-Barthélemy, vous allez trouver quand même pas mal d'informations. Oui? Précis d'histoire de l'Église. Jules Marcel Nicole. Jusqu'à ce jour, c'est à peu près le seul livre de toute façon en français. Donc si vous cherchez un livre d'histoire de l'Église en français, c'est celui-là que vous allez trouver. Mais il est très bon. Et il reste quand même très à jour. D'accord? C'est un petit peu étrange de commencer à le lire au début, parce que vous avez l'impression que l'auteur s'en va un petit peu partout, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations. Mais je vous dirais qu'après une trentaine de pages, vous êtes adapté, là. Vous n'êtes pas en train de lire un roman linéaire. Vous êtes adapté, puis vous allez tirer vraiment l'édification. Et si je ne me trompe pas, vers la fin, il y a des lignes du temps qui nous aident à situer quand même le déroulement des choses dans le temps. Alors voilà pourquoi je vais me concentrer sur la réforme anglaise, parce que de la réforme anglaise vont sortir les puritains, des puritains vont sortir les baptistes, et donc notre histoire vient beaucoup de là. Mais je dis ça, et puis en même temps, cette église-ci a été fondée par un Français, M. Beau, Lisez Beau, et donc c'est pour dire que l'Évangile a continué à demeurer en France, est resté présente, d'accord? Mais elle a été marginalisée parce que l'Église catholique a réussi à massacrer les protestants, littéralement, et les amener à s'exiler, d'accord? Réforme anglaise. La réforme anglaise a aussi son lot de tristesse parce que, de la même manière que Dieu a utilisé Pharaon, je pense qu'il n'aimerait pas ça qu'on le compare à Pharaon, mais il mérite cette comparaison-là. De la même manière que Dieu a utilisé Pharaon, ou que Dieu a utilisé Pilate, ou que Dieu a utilisé Caïphe et Anne, eh bien, Dieu s'est servi d'un homme vraiment vil, un homme extrêmement charnel, Henri VIII, illustrement connu pour le nombre d'épouses qu'il a eues et le nombre d'épouses qu'il a fait assassiner, le nombre de maîtresses qu'il a eues d'enfants illégitimes, d'accord? Alors, lorsqu'on arrive à la réforme anglaise, il faut reculer un petit peu dans le temps, puis après ça, on va parler d'Henri VIII. Pour comprendre la réforme anglaise, il faut retourner avec John Wycliffe. Peut-être que vous vous rappellerez, j'avais parlé de John Wycliffe plus tôt. Et donc, le gros du mouvement de la réforme, c'est... la réforme s'est mise en mouvement avec puissance en Angleterre. Mais il y avait même déjà des gens qui avaient commencé à faire des réformes avant même que Luther arrive. Et Luther lui-même va pouvoir être assez rapidement influencé par d'autres efforts. Alors, on a parlé de John Wycliffe. J'avais mentionné un mouvement qui a découlé des efforts de John Wycliffe, qui étaient les Lollards. Et donc, Wycliffe avait travaillé une traduction de la Bible, traduction qui n'était pas aussi bonne que les traductions qu'on a maintenant, parce qu'il avait fait sa traduction, il était au sein de l'Église catholique. Alors, il avait traduit à partir de... Quelqu'un qui le sait? La Vulgate. La Vulgate étant la Bible latine qui avait été produite par Jérôme. Salut. Et donc, il a fait sa traduction à partir de la Vulgate. D'accord? C'était un bon ouvrage, mais évidemment, on n'était pas dans les textes originaux. Mais clandestinement, cette traduction-là a continué à faire apporter une certaine influence. Et donc, à l'intérieur de l'Église catholique, en Angleterre, il y avait déjà des efforts de réforme qui étaient en train de se faire. D'accord? Les Anglais ont toujours eu l'avantage de ne pas être sur le continent. Et donc, ont toujours gardé un esprit un peu indépendant à l'égard du continent. Et dans ce cas-là, ça a été extrêmement favorable pour pouvoir commencer à préparer des choses. Éventuellement, ces réformateurs-là qui étaient en train de réfléchir tout ça ont vu ce qui se passait en Allemagne, ont commencé à avoir des contacts, à avoir des informations. Et cela va alimenter, va nourrir leur démarche à eux. Donc, dès le 14e siècle, un certain mouvement avait commencé, comme je le mentionnais avec Wycliffe, puis après ça, les Lollards. Au début du 16e siècle, soit en 1520, des théologiens qui étaient à l'intérieur de l'Église catholique, mais qui enseignaient à l'Université de Cambridge, ont commencé à discuter ensemble de réformes à apporter à l'intérieur de l'Église. Comme partout dans l'Église catholique, à cette époque-là, il y avait énormément de corruption. Alors, c'était le cas aussi en Angleterre. C'était de notoriété publique que des moines avaient des maîtresses, que des curés avaient des maîtresses et toutes sortes de choses semblables. Non pas qu'ils n'auraient pas pu se marier, ces gens-là, mais s'ils ont fait vœu d'abstinence, de chasteté, mais ils devaient honorer ça parce que ça engendrait tout un système de corruption, évidemment. Alors, ces mêmes problèmes-là à l'intérieur de l'Église étaient évidents aussi en Angleterre. Et donc, ce groupe de théologiens-là, d'enseignants de théologie, de pasteurs, ont commencé à faire des réflexions ensemble. Il y a un café, je ne sais pas s'il existe encore, ça s'appelle le White Inn Horse. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient cette info-là, là. Mais c'est un pub. Les choses en Angleterre se passent dans des pubs. Et donc, c'est un pub où plusieurs de ces théologiens-là se sont côtoyés pendant plusieurs années à discuter, à réfléchir sur les réformes qu'il fallait apporter à l'intérieur de l'Église. Et ils ont tenté de faire des réformes. Des noms, je vous donne juste quelques noms. Cranmer, qui lui va pouvoir en faire beaucoup. Latimer, Ridley, Tyndale. La majorité, en fait, tous ces hommes-là vont mourir martyrs. D'accord, même s'ils réussissent à apporter un certain nombre de réformes, mais ils vont mourir martyrs. Alors, en France, il n'y a pas eu de réforme, parce qu'on l'a éteint par un massacre. En Angleterre, il y a eu une réforme qui a été accompagnée de massacres. D'accord? Ça s'est échelonné davantage, ça s'est fait graduellement, on les éliminait quelques-uns à la pièce, donc ce n'était pas un massacre généralisé, et l'Église catholique n'a pas réussi à se purger entièrement, à purger l'Angleterre du protestantisme. Mais entre autres, comme j'ai mentionné à cause d'Henri VIII, on va venir sur Henri VIII. Alors, Tyndale va jouer un rôle important, je voudrais juste le placer dans le temps. Pour vous induire en erreur. Parce que Tyndale va faire une traduction à partir du grec et de l'hébreu directement. 1395, bon, 1395, on a un acétate pour ça, je crois, le quatrième. Vous avez Tyndale, juste avant, on a William Tyndale, 1494 à 1536, d'accord? Et donc, après ça, on a sa traduction de la Bible, 1395. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, hein? C'est intéressant. Ça doit être 1495, d'accord? Présumons que c'est ça, je pourrais vérifier mes dates. Mais, donc, lui va faire une traduction à partir du grec et de l'hébreu. D'accord? Lorsqu'il commence à travailler sur sa traduction, évidemment, il sait que s'il reste en Angleterre, à ce moment-là, sa vie va être mise en péril, parce que l'Église catholique n'était déjà pas d'accord avec la traduction anglaise faite à partir de la Vulgate par John Wycliffe. C'était déjà quelque chose qui était marginal. Alors, ce que Tyndale va faire, c'est qu'il va s'exiler en Europe. Il va aller se cacher dans les pays protestants d'Europe pour pouvoir se mettre à l'abri, compléter sa traduction à partir du grec et de l'hébreu. Et une fois qu'il a complété sa traduction, il va chercher à revenir et sa traduction va commencer à circuler. D'accord? L'imprimerie est là, c'est en train de circuler, ça commence à se répandre. Et en fait, cette traduction-là va demeurer très, très respectée. Ils n'avaient pas toutes les connaissances que les fouilles archéologiques ont pu nous apporter à traduire des vieux manuscrits. On ajuste un peu notre compréhension de la langue ancienne, des langues anciennes, tout ça. Mais 95% de la King James Version, vous avez tous entendu déjà parler de la King James, qui est encore une Bible très, très respectée dans le milieu anglophone, même si aujourd'hui, ils ont fait des révisions avec la NIV et tout ça. Mais la King James Version est à 95% basée sur la traduction faite par William Tyndale. D'accord? Avec quelques ajustements, ça va venir, je crois, presque 200 ans après. Mais je pourrais vous induire en erreur là-dessus. Donnez-moi une petite seconde pour que je vérifie mes trucs. Alors, bon, c'est ça. Pourquoi j'ai 1395? Sa traduction complète va se terminer en 1525. Fait que, oubliez cette date-là, s'il vous plaît. C'est 100 ans plus tard que le King James va sortir. Tyndale va avoir à payer ça de sa vie à partir du moment où il croit qu'il peut revenir en sécurité. L'Église catholique va réussir à le faire enlever. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à faire infiltrer ses disciples par un faux disciple, quelqu'un qui prétendait croire dans les enseignements de Tyndale, mais c'était un catholique, non? J'ai son nom dans mes notes, là, mais là, je l'oublie. Et donc, ils vont le piéger grâce à cet homme-là. Ils vont réussir à l'arrêter avant qu'il soit en sécurité. Et puis, il va être mis en prison. Évidemment, il va subir la question. Ceux qui connaissaient la question, c'est pas quelque chose de sympathique à subir. Et il va débattre. On va essayer de le faire rentrer dans les rangs, tout ça. Ça ne fonctionnera pas. Il va être torturé. En fin de compte, il va être mis à mort par strangulation, puis on va brûler son corps. Donc aussi, dans mes notes à quelque part, là, j'ai meurt au bûcher, c'est faux. Il faut vraiment que je corrige mes acétates. Il a été tué par étranglement, par strangulation, puis ensuite, on a brûlé son corps. Donc, il décède en 1500... il est arrêté en 1535, je m'excuse, et puis il est mis à mort en 1536. Pardon? Ça vit pas vieux. Hein? La strangulation, ça a cette propriété-là de d'écourter tes jours souvent. Alors, le plus gros de la réforme qui va se passer en Angleterre va se produire sous la direction d'Henri VIII. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous résumer ce que vous savez sur Henri VIII à part ses déboires maritaux? Est-ce qu'il y en a qui ont des informations sur Henri VIII? Non? Comment ça a commencé l'Église anglicane? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Pardon, il voulait divorcer. C'est ça, on lui refusait un divorce. Alors, Henri VIII était roi d'Angleterre. Il était marié à Catherine d'Aragon, d'accord? Une reine, une fille de France. Donc, c'était des alliances tout le temps. Et puis, Catherine de France, je crois. Catherine d'Aragon était catholique. Et elle lui a donné plusieurs enfants, mais les enfants mouraient tous en bas âge. Et donc, il a perdu tout espoir de pouvoir avoir un héritier. Et cet homme-là cherchait désespérément un héritier. Il avait déjà eu un fils par l'une de ses maîtresses, d'accord? Mais il ne voyait pas comment il pouvait faire légitimer ça. Son mariage avec Catherine d'Aragon avait déjà demandé une dispense de la part de l'Église catholique parce que Catherine d'Aragon était veuve du frère d'Henri VIII. Et donc, il avait marié sa belle-sœur. Il l'avait fait avec une dispense émise par l'Église catholique pour lui permettre de le faire. Et donc, à un certain moment donné, lorsqu'il a vu que Catherine ne lui donnerait pas le fils, l'héritier qu'il voulait, eh bien, il a invoqué le fait que son mariage n'était pas valable puisque l'Église catholique avait autorisé quelque chose qui allait contre la loi de l'Église catholique sur le mariage. Et donc, il a dit, vous devriez annuler mon mariage puisqu'il n'était pas valable et ainsi je pourrais me remarier. Il est rentré dans un combat de coq avec l'autorité catholique. Et puis, et il a commencé à avoir une aventure avec Anne de Boleyn. Alors, vous avez peut-être vu l'histoire d'Anne de Boleyn dans des films. Il y a eu des films qui ont été faits sur elle, des vieux films que mon épouse écoutait, qu'elle trouvait super romantique. Il a commencé à avoir une aventure avec Anne de Boleyn, qui était, elle, par contre, d'origine protestante. Une aventure avec le roi. Maintenant, Anne de Boleyn tombe enceinte. Et là, ça commence vraiment à être urgent. Il faut qu'il puisse la marier parce qu'il espère qu'elle va pouvoir lui donner l'héritier qui l'attend. Et donc, à ce moment-là, il va commencer à faire un certain nombre de manœuvres lui-même. Les autorités de l'Église catholique avaient mis en place un archevêque en Angleterre, l'archevêque Wolsey. Et ce qu'ils avaient fait pour pouvoir garder un certain pouvoir sur le roi d'Angleterre, c'est qu'il lui avait donné des pouvoirs extraordinaires. Et donc, il était archevêque, c'est pas Canterbury, je me trompe de... C'est une autre ville, là, fait que je ne vais pas vous induire en erreur. Il était archevêque de cette ville-là. Il était aussi le légat du pape. Et enfin, il avait été nommé comme le... Je ne me souviens plus du terme qu'ils utilisent, là, mais c'est comme s'il était le roi sur ce royaume. Mais ils n'utilisent pas le mot roi parce qu'il y a déjà un roi, d'accord? Mais si, comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, si vous alliez voir la tiare d'un pape, puis vous alliez lire... Je me souviens plus, je sais pas s'ils l'ont changé par la suite, mais sur leur tiare, sur le chapeau du pape, il y a plusieurs couronnes en réalité. Et donc, ces couronnes-là vont déclarer, par exemple, que le pape est le chef de l'Église. Deuxièmement, que le pape est prince de tous les princes de la terre. Troisièmement, et donc, le vicaire du Christ. Merci. Et donc, ces couronnes-là sont pour déclarer, en fin de compte, c'est le boss des boss, d'accord? Non seulement sur la foi, mais aussi sur toutes les questions civiles. Et ils avaient donné ces super pouvoirs-là à l'archevêque Wolsey pour essayer de s'assurer que le roi Henri VIII allait rester tranquille. Maintenant, ce que le roi Henri VIII a fait, c'est qu'il s'est servi de la vie de débauche de cet archevêque, débauche qui était notoire, et donc il a fait sortir, il a fait publier toute une série d'accusations contre lui, en mettant tout simplement sa vie sur la place publique. Ils auraient pu jouer à ce jeu-là, chacun les uns avant les autres, mais c'est quand même un homme d'Église. Peut-être que c'était plus scandaleux pour les gens à cette époque-là. Et Wolsey va obtempérer. Parce que ce que le roi Henri VIII a fait circuler sur lui a amené le Parlement à porter des accusations contre Wolsey, et il va obtempérer et il va donner sa démission, il va se retirer. À partir de ce moment-là, le roi a les coups des franges pour pouvoir affirmer son indépendance par rapport à l'Église catholique. Je veux juste trouver la date de l'édit qu'ils vont publier. En fait, je voudrais peut-être vous lire un petit extrait ici. En 1534, le Parlement d'Angleterre a publié un acte, c'était l'acte de suprématie. D'accord? Et cet acte de suprématie-là disait en gros que le roi avait toute autorité pour intervenir dans la vie de l'Église en Angleterre à différents moments. Alors, ce n'est pas lui qui devait conduire l'Église, mais il avait toute autorité pour intervenir afin de redresser, de corriger. Et je peux vous lire juste en anglais quelques extraits, là, vous allez suivre. Our said sovereign lord, et on parle ici du roi, his heirs and successors, kings of the realm, shall have full power and authority from time to time to visit, repress, redress, reform, order, correct, restrain, and amend all such errors and heresies, abuses, offenses, contempts, and enormities whatsoever they be, which by any manner spiritual authority or jurisdiction ought or may lawfully be reformed. Alors, il avait l'autorité pour intervenir dans l'Église et redresser toute hérésie, toute erreur. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit qu'en Angleterre, dans l'Église anglicane, c'est le roi ou la reine qui est le chef de l'Église. Non pas qu'ils sont là pour conduire l'Église semaine après semaine et la diriger, mais ils ont en définitive autorité suprême pour intervenir si l'Église devait s'égarer. D'accord? C'est énorme, là. Comprenez, c'est absolument énorme. En fin de compte, il y a les pleins pouvoirs parce que c'est lui qui détermine quand l'Église s'égare, évidemment. Et donc, c'était très, 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 très grand. Avec cet édit-là, le roi se détache tout simplement l'Église d'Angleterre de l'Église catholique. Il vient de déclarer ça. Et le roi va apporter quelques réformes, mais des réformes très, très, très légères. Il va rester, dans le fond, de conviction catholique au niveau de sa doctrine jusqu'à la fin de ses jours. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'était vraiment un enjeu politique pour lui. Mais Dieu va se servir de ça pour permettre à de nombreuses réformes d'avoir lieu par la suite. D'accord? Alors, lui reste de conviction catholique dans sa doctrine. Il va même avoir un débat public avec Martin Luther pour s'opposer aux doctrines de Luther. Alors, comme je vous dis, il rentrait dans les débats doctrinaux. Et donc, il va avoir une fille de Anne de Boleyn. Sa fille s'appelle Élisabeth. Donc, de Catherine d'Aragon, il a eu Marie la Sanglante, dont on va parler bientôt. Et puis, d'Anne de Boleyn, il va avoir Élisabeth. Il va avoir d'autres épouses. Il va faire assassiner un certain nombre de ses épouses en trouvant des fautes chez ces femmes-là. Il va continuer à avoir des maîtresses. Et donc, ça demeure un homme extrêmement charnel là, jusqu'à la fin de ses jours. Cranmer va être placé à la tête de l'Église anglicane à ce moment-là. D'accord? Cranmer va réussir à apporter un certain nombre de réformes dans l'Église. C'était un homme pieux, c'était un homme qui était attaché à Dieu. C'était pas un homme de tous les courages. Et donc, il ne va pas apporter toutes les réformes. Comme vous avez pu le voir lorsqu'on a parlé de Martin Luther ou de Zwingli, c'était vraiment c'était des boulets de canon, ces gars-là. Et c'était des bulldozers, puis au péril de leur vie, ils étaient prêts à faire face à tout le monde. Cranmer va apporter un certain nombre de réformes, mais même à la fin de sa vie, il va avoir un moment où il va abjurer pour sauver sa vie, puis il va se repentir et il va mourir martyr quand même. Mais tout de même, il va apporter un certain nombre de réformes, comme je le mentionnais. Par exemple, il va placer des Bibles anglaises dans toutes les églises, d'accord? Sous Cranmer, les Bibles anglaises vont être placées dans toutes les églises à un certain moment donné, et de toute façon, les gens du peuple se servait de plus en plus de la Bible en anglais. Alors, il y a un des évêques de l'Église anglicane qui a tout simplement dit arrêtez de nier la réalité. Bien des gens à l'intérieur de vos paroisses connaissent davantage la Bible que vous, membres du clergé. Alors, passons à l'anglais et utilisons les Bibles anglaises, d'accord? Laissez-moi juste retrouver mon monsieur Cranmer. OK, alors avant de passer à Édouard VI, je fais juste le bilan pour Henri VIII. Ce qui s'est passé avec Henri VIII, l'Église est devenue indépendante de l'Église catholique. L'Église anglicane est fondée. Cranmer réussit à placer des Bibles un peu partout dans les Églises, mais il n'y a pas de réforme substantielle au niveau de la doctrine parce que le roi lui-même, qui est là pour redresser l'erreur, n'est-ce pas? Le roi lui-même demeure de conviction catholique. Et donc, la seule chose qui se passe à ce point-ci, à la mort d'Henri VIII, vraiment, c'est que l'Église est indépendante du catholicisme et va pouvoir commencer à opérer ses réformes. Il y a énormément de catholiques en Angleterre à ce moment-là, d'accord? Et donc, parce que comme je vous dis, le roi demeure catholique de conviction dans toutes les questions doctrinales. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de catholiques en Angleterre à ce moment-là. Son fils, Henri VI, au décès de son père, a 9 ans et c'est lui qui est nommé roi d'Angleterre. Il a été élevé par sa mère de conviction protestante. Alors, au niveau de sa foi à lui, pour autant qu'on peut savoir, il va demeurer de foi protestante toute sa vie. Les informations qu'on a nous disent que c'était un homme pieux, mais évidemment, à l'âge de 9 ans, lorsqu'il accède au trône, mais c'est pas lui qui prend la majorité des décisions. Et donc, il y a des protecteurs qui sont nommés, et ces protecteurs-là vont commencer à entamer des réformes beaucoup plus profondes à l'intérieur de l'Église anglicane afin de s'éloigner un petit peu plus de la doctrine catholique. Le Parlement va officiellement rejeter la doctrine catholique et vont chercher à établir leur propre doctrine par eux-mêmes. En 1549, Thomas Cranmer, toujours le même monsieur qui a placé des Bibles un peu partout dans les églises, va publier la première version du Book of Common Prayer. Certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce livre-là. Ça demeure un livre extrêmement respecté au niveau de la foi. L'Église anglicane, sur la majorité des points de doctrine, est très, très, très près de nous, sur ces points de doctrine. Si vous lisez le catéchisme de Westminster, c'est un catéchisme qui est très, très près de notre foi dans la majorité des points de doctrine. Au niveau du salut, il y a énormément de choses très solides là-dedans. Et donc, la première édition du Book of Common Prayer est publiée à cette époque-là par Thomas Cranmer en 1549. Comme je vous dis, on commence les réformes. Alors, à travers ce livre-là, on commence à prendre une distance par rapport à l'Eucharistie dans l'Église catholique. Et donc, on rejette la transsubstantiation. Quelqu'un qui veut me dire c'est quoi la transsubstantiation? Alors, c'est le pain et le vin qui deviennent, la substance est transformée, transsubstantiation, est transformée en véritable chair et en véritable sang. Et c'est pas n'importe quelle chair, n'importe quel sang, mais la chair de Christ, c'est le sang de Christ. C'est la doctrine catholique par rapport à l'Eucharistie. Oui, Herman. D'accord, malgré que l'apparence n'est pas transformée, OK, même si l'apparence n'est pas transformée, la substance l'est. Oui, c'est ça. Vous pourrez lire sur la doctrine catholique de l'Eucharistie. Ils n'ont pas évolué de ce côté-là. Il n'y a rien qui a changé depuis cette époque-là. Alors, eux autres vont s'éloigner de ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont dire aux gens, lorsque vous venez prendre le repas du Seigneur, l'Eucharistie, vous venez vous nourrir dans votre cœur et par la foi sur le corps et le sang de Christ. D'accord? Alors, pour eux, ce n'est plus une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle. Et c'est donc un acte de foi, ça se passe dans mon cœur, ma communion au sacrifice de Christ. Ce n'est plus une communion physique où je mange la chair et je bois le sang de Christ. D'accord? Ce qui est quand même déjà une réforme assez importante. On va inviter les gens à venir à la table du Seigneur plutôt que de venir à l'autel. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que... quelle nuance il y a là-dedans? D'accord? Je sais, il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, des mots, c'est n'importe quoi. » Non, non, c'est très important. C'est quoi la différence entre venir à la table du Seigneur puis venir à l'autel, Herman? OK. Alors, l'autel, c'est pour faire un sacrifice. Donc, l'Église catholique re-sacrifie chaque dimanche en pratiquant l'Eucharistie. D'accord? À chaque fois. Ils refont le sacrifice de Christ, ils repratiquent ça sur l'autel. La table, c'est une table commémorative. C'est un endroit où on va pour se rappeler de ce qui a été complètement accompli. D'accord? Et donc, on parle juste d'un mot, mais dans la conviction de ce que tu es en train de vivre, ça a une importance importante. Ça a une importance majeure, ça a un impact énorme. Lorsqu'on parlait du contrôle que le clergé catholique a sur la population, mais si on reconduit le sacrifice du Christ chaque dimanche et qu'on donne le corps et le sang du Christ, et c'est juste le prêtre qui a été autorisé par l'Église à le faire, écoutez, il a un ascendant sur le peuple absolument énorme. Si ta semaine s'est mal passée puis tu étais dans le péché, tu en as besoin de ce moment-là. Tu as besoin d'aller faire acte d'humilité devant le curé. Parce que si le curé dit « t'es mieux de ne pas te présenter à l'Eucharistie dimanche, puis si tu ne te présentes pas, ton âme est damnée », ça va mal. D'accord? Pardon? Oui. Oui. En fait, c'est ça. Ce qui arrive, comme Suzy le mentionne, là, dans le fond, on retourne dans l'Ancien Testament. D'accord? Et le problème avec ça, c'est que, en fin de compte, tout ce que l'Ancien Testament annonçait n'était pas une annonce, puisqu'on est en train de le refaire à chaque dimanche encore. D'accord? On a besoin de cette communion-là avec le prêtre. Ça pose une question monumentale sur toutes les prophéties d'Ézéchiel, d'Ésaïe, tout ça, qui nous disait que tous les croyants allaient être prêtres. D'accord? Allait être un peuple de prêtres qui allait être en communion eux-mêmes avec Dieu. Je vous avoue, je n'ai pas lu de commentaires bibliques catholiques pour voir comment ils gèrent ça. Parce que, comme je l'ai mentionné dans le cours, pendant assez longtemps dans l'Église catholique, l'Église, c'était les prêtres. Ça, c'était l'Église, d'accord? Et le peuple venait près de l'Église, dans le fond, entrer en communion avec l'Église. Mais ce n'était pas l'Église. Ils ont réformé ça avec Vatican II. D'accord? Ils ont changé des choses comme ça en profondeur quand même avec Vatican II, mais pendant longtemps, c'était ça la vision. D'accord? Et c'est pour ça que pour moi, c'est pertinent qu'on fasse un cours de survol d'histoire de l'Église. Parce que lorsque je vais parler avec quelqu'un qui est catholique, si cette personne-là lit moindrement la Bible, premièrement, je veux dire, il y en a qui sont chrétiens, d'accord, et ils vont cheminer, puis éventuellement, ils vont remettre beaucoup de choses en question. Ils sont marginaux puisqu'ils ne vont pas vers les Écritures. Fait que si tu vas juste avec l'enseignement que tu reçois, l'Évangile est là, puis le contraire de l'Évangile. Ça a toujours été ça le problème avec l'Église catholique. C'est que dans l'Église catholique, tu trouves l'Évangile et son contraire. Or, Paul dit clairement, si quelqu'un ajoute ou retranche, hein, attention, Jean le dit aussi, faites attention, ça devient un autre Évangile que vous êtes en train d'enseigner. D'accord? Mais si je veux parler avec un catholique, ça se peut très, très bien que dans ma conversation avec lui, j'en vienne à la conclusion qu'il saisit l'Évangile. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un comprend l'Évangile s'il comprend l'Évangile avec la vérité et son contraire après et qu'il ne voit pas qu'il contredit l'Évangile. D'accord? C'est comme si moi je vous disais, je suis le fils de Louise Paré. Puis vous dites, OK, je comprends, tu es le fils de Louise Paré. Mais vous pensez aussi que je suis le fils de Louise Gauthier. Ben là, je vous dirais, non, vous n'avez pas compris. Non, mais je sais que tu es le fils de Louise Paré. Oui, mais vous pensez que je suis aussi le fils de Louise Gauthier. Il y a un problème. Je ne suis pas les deux. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'on va parler avec quelqu'un qui est catholique, puis généralement, exceptionnellement, vous allez tomber sur quelqu'un qui saisit, puis là, tu dis, ouais, mais OK, continue ta recherche, là, chemine. Là. Mais si vous restez au niveau de l'expression de l'Évangile, ils peuvent vous présenter l'Évangile pas mal clairement, parce qu'ils croient qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils vont prendre l'Eucharistie. L'Eucharistie, ils ne sont pas en train de le faire au nom de Mahomet, ils le font au nom de Jésus. C'est le corps du Christ qui sont en train de sacrifier là, donc ils croient qu'on est sauvé par la foi en Jésus. Non? Ils croient qu'ils sont pas, leurs œuvres ne sont pas suffisantes pour entrer au ciel. C'est clair qu'ils ont besoin du sacrifice de Jésus. Mais le sacrifice de Jésus, est-ce qu'il est suffisant pour te faire entrer au ciel? Oh, là, c'est une autre affaire, par exemple. Là, on s'en va ailleurs. Le sacrifice de Jésus peut-être pas suffisant, par contre. D'accord? Et donc, tout le système des œuvres revient. Ça va? Donc, c'est important de connaître l'histoire pour pouvoir discuter avec les gens et pouvoir les aider. C'est pas d'être condescendant avec eux, c'est pas d'arriver puis dire, regardez, nous, on a un héritage pur. Puis c'est pas ça l'idée. Notre mandat à nous, c'est humblement d'annoncer l'Évangile, mais il faut être capable, en discutant avec les gens tranquillement, de discerner c'est où les erreurs qu'ils croient, pouvoir les diriger tranquillement vers la vérité, vers l'Évangile. Et juste leur arrivée avec Jean 3.16 ne fera pas toujours le travail. Parce que Jean 3.16, ils peuvent très, très bien y croire. D'accord? Mais il faut que j'aille travailler dans Romains aussi. Il faut que j'aille attaquer des choses qu'ils croient qui sont fausses à l'égard de l'Évangile. Il faut que j'aille dans Éphésiens. Il faut que je sois capable de dire tout est accompli. Sacrifie-le pas dimanche prochain. Tout est accompli. Il ne va pas prendre l'Eucharistie avec un nouveau sacrifice. Tout est accompli. Il faut que je sois capable d'aller, voyez-vous, voir ces choses-là. Puis à partir du moment où tout est accompli, mais on va le refaire dimanche prochain, pourquoi tu as besoin de le refaire? Parce que tu crois au salut par les œuvres. Tu ne crois pas au salut par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et c'est possible de connaître ces choses-là. Là. C'est pas des choses juste pour le petit gars en avant, le nerd en avant. Ça va? Alors, Édouard VI, on s'est éloigné pas mal d'Édouard VI. Édouard VI, il va y avoir un grand nombre de réformes qui vont se faire sous son règne à lui, avec Cranmer, comme je l'ai dit. J'avais mentionné qu'on allait inviter les gens donc à la table du Seigneur plutôt qu'à l'autel, mais les prêtres vont aussi, on va parler des prêtres comme des ministres à ce moment-là, plutôt que comme des prêtres. Et donc, on commence à comprendre la prêtrise universelle des croyants. Tous les croyants peuvent accéder dans la présence de Dieu, devenir des intercesseurs. Eux autres, ce sont des ministres de la parole. Ils sont là pour apporter la parole de Dieu. Ils sont là pour enseigner. Cranmer va être l'auteur de 42 articles de foi à travers lesquels il va chercher à apporter un certain nombre de réformes. Avec un certain nombre de révisions un peu plus tard, 39 de ces 42 articles vont rester le fondement de l'Église anglicane. Oui. Anne de Boleyn. Oui. Non. Lui va décéder. Il va avoir un règne de 6 ans, Édouard, et ça va être l'aînée descendante qui va prendre le trône, Marie. La fille de Catherine d'Aragon, et qui, là, je ne me souviens pas du jeu politique qui s'est fait pour qu'ils réussissent à la faire monter là, mais c'est Marie qui va revenir prendre le trône, celle qu'on connaît sous le nom de Bloody Mary, Marie la Sanglante, Elle était catholique de conviction et elle va travailler pendant quelques années à ramener. D'accord? Elle a un règne de 5 ans, mais ça va être 5 ans meurtriers. Et donc, ce qu'elle va travailler, elle va essayer de faire réintégrer l'Église anglicane à l'intérieur du catholicisme. Littéralement. Alors là, vous avez tous les jeux politiques, les appuis de l'Église catholique, les forces militaires qui sont capables de déployer. Et donc, elle a voulu purger l'Église anglicane des réformes protestantes. Et elle va se lancer dans une série de persécutions où elle va chercher à éliminer toutes les réformes qui avaient été apportées. Nicholas Ridley, pardon, va mourir martyr. Hugh Latimer va mourir martyr. Les deux vont être brûlés ensemble sous les persécutions de Bloody Mary. Elle va faire venir un prélat de Rome, Reginald Paul, qui va commencer à renverser des décisions qui avaient été prises pour apporter des réformes. Ici, j'ai encore une information contradictoire. Là. Soit qu'Édouard a régné 16 ans ou il a régné 6 ans. Je suis désolé. Il faudrait que je le vérifie pour ne pas vous induire en erreur. Sous le règne de Marie la Sanglante, Cranmer va être arrêté. Il va être torturé. Il va abjurer la foi protestante. Donc, il va renier sa foi dans le but de se sauver la vie. Mais avant d'être libéré, il va se repentir de ça. Et en fin de compte, il va être brûlé au bûcher. Marie meurt en 1558. Elle n'a pas d'héritier, mais elle a réussi à amener le sang et la violence en Angleterre autour de ces questions-là. Et ça va avoir un impact sur la suite parce que ce qu'elle va faire va dégoûter profondément les Anglais. D'accord? J'ai la date de la Saint-Barthélemy, 1572. C'est ça, c'est un petit peu plus tard. Mais les Anglais vont être dégoûtés par toute cette violence-là. Les pays se regardent. Hein? Fait que la France regarde comment ça se passe en Angleterre. L'Angleterre regarde comment ça se passe en France, tout ça. C'est ce qui fait qu'en France, les catholiques vont décider de ne pas le protestantisme est en train de s'installer à la cour au moment du massacre de la Saint-Barthélemy et commencer à avoir beaucoup d'influence. Il y a eu des influences jusqu'ici dans la colonisation avec Champlain, tout ça. D'accord? Et donc, il va y avoir des influences protestantes, huguenotes. Et les Français vont décider de ne pas subir ce qui se passe en Angleterre, ces jeux de pouvoir-là. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont déclencher le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, les deux pays s'observaient. Je veux juste voir s'il y avait d'autres éléments importants à mentionner avec Marie. Au moment où sous le règne de Marie la Sanglante, comme je le disais, les persécutions se sont multipliées. Alors, il y a beaucoup de protestants qui ont fui à ce moment-là et qui sont allés vers le continent. Ils allaient se réfugier dans les pays protestants à ce moment-là. Et probablement qu'il y a un grand nombre de vies qui ont été sauvées, mais ils ne sont pas tous revenus après ça en Angleterre. Oui, allez, vas-y, Jean.
Et est-ce que c'est de là que toutes les guerres sanglantes avec Mary, ça se passait à ce moment-là?
Je voudrais pas vous induire en erreur. Ma réponse, je serais pas sûr de ma réponse si je te dis oui ou non. Je sais que la mère de Marie a été mise à mort, mais le roi a pas osé mettre à mort sa fille. C'est ce qui fait que Marie est restée en vie. Et il va y avoir des protections comme ça qui vont se faire parce qu'ils n'osent pas porter la main sur le sang royal. Mais je ne pourrais pas dire où est-ce qu'en est l'Écosse à ce moment-là. Là, je vous induirai en erreur. Ce ne sera pas bien long. Marie va éliminer à peu près 300 personnes influentes en Angleterre pendant ces 5 années. Alors, comme je vous dis, c'est rien à comparer de ce qui se passe avec le massacre de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'est des milliers de vies qui sont massacrées en 24 heures. Mais tout de même, en allant éliminer des personnages influents, elle cherche à arrêter complètement les réformes qui sont en train d'avoir lieu. J'ai mentionné Nicholas Ridley, Hugh Latimer. Laissez-moi voir s'il y avait quelqu'un d'autre à mentionner. Je vais vous lire une citation de Latimer qui attendait sa mise à mort alors qu'il était en prison. Il a écrit une lettre à son ami Ridley. Et je vais vous lire en anglais, je vous le résumerai après. « There is no remedy but patience. Better it is to suffer what cruelty they will put upon us than to incur God's indignation. Wherefore, be of good cheer in the Lord, with due consideration what he required of you, and what he doth promise you. Our common enemy shall do no more than God will permit him. God is faithful, which will not suffer us to be tempted above our strength. » Et tout simplement, il est en train de lui dire, ce que Dieu fait, c'est ce qui est bien. Dieu ne nous donnera pas des épreuves au-delà de nos forces, brûlées au bûcher. Mais il dit, ne craignons pas les hommes, craignons Dieu davantage, plutôt que de l'indigner par notre témoignage. Et il lui dit, allons-y joyeusement vers ce que Dieu nous réserve. Et donc, ils n'ont jamais abjuré leur foi jusqu'à ce qu'ils soient exécutés. Les deux ont été exécutés ensemble, comme je le mentionnais, ils ont été brûlés. Et on rapporte que à la fin, Latimer, pour encourager son ami lorsqu'il était sur le bûcher, jusqu'à quel point c'est juste, ça reste à voir, mais il aurait crié, « Be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day, by God's grace, light such a candle in England as I trust shall never be put out. » Et donc, il dit, « Sois en paix, Maître Ridley, sois un homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons allumer, c'est un jeu de mots, vous comprenez, une chandelle en Angleterre qui, je le crois, ne s'éteindra plus jamais. » Et effectivement, ce bûcher-là a amené éventuellement, parce que, comme je vous dis, l'Angleterre a été scandalisée par les massacres que Marie faisait, catholiques comme protestants. Il y avait des gens qui la suivaient, mais il y a des gens qui étaient scandalisés par ces massacres-là. Et ça va ouvrir la voie après pour qu'il y ait une période plus paisible sous Élisabeth. On a parlé de Cramer, ça va? Voici la repentance de Cranmer. Après avoir abjuré, il s'est repenti. Voici ce qu'il a dit. « My words were written contrary to the truth which I thought in my heart, and written for fear of death, to save my life if it might be. I, for as much as I have written many things contrary to what I believe in my heart, my hand shall first be punished. For if I may come to the fire, it shall first be burned. As for the Pope, I refuse him for Christ's enemy and antichrist with all his false doctrine. » Et donc, il a dit, ce n'est pas la première fois que je me contredis moi-même. Et comme c'est ma main qui a écrit ce que mon cœur ne croyait pas, mon corps serait brûlé en premier. Mais pour ce qui est du pape, je refuse, je le rejette et je le déclare un ennemi du Christ et un antichrist, lui et toute sa fausse doctrine. Et donc, c'est ce qu'il a déclaré comme acte de repentance avant d'être conduit au bûcher. Élisabeth va succéder à Marie la Sanglante. Élisabeth est protestante et c'est une femme plus paisible. Alors, elle va publier un certain nombre d'édits pour protéger tant catholiques que protestants. D'accord? Elle veut laisser la liberté davantage à chacun de fonctionner selon sa conscience, mais elle va permettre quand même un certain nombre de réformes qui vont avoir lieu à l'intérieur de l'Église anglicane. Oui, c'est la fille de Anne de Boleyn. D'accord? La deuxième épouse d'Henri VIII, elle avait été protégée et elle est protestante. Anne de Boleyn était protestante. Je crois. Quand je vous dis je crois, c'est parce que je suis pas sûr. Il faudrait que je révise toutes mes notes, mais là ici j'ai vraiment un résumé là, fait que c'est ça. faudrait que je relise mon précis d'histoire à chaque fois. Ce sera pas long. Alors, dès que Élisabeth est entrée au pouvoir, elle a renversé les politiques, les décisions que sa sœur avait mises en place, sa demi-sœur Marie. Elle a adopté le protestantisme et avait une politique qui respectait davantage les convictions de chacun. Ça sera pas bien long. Elle a été élevée par sa belle-mère, comme je vous disais, Henri VIII a continué à faire des changements maritaux pendant une bonne partie de sa vie. Elle a été élevée par sa belle-mère Catherine Parr, qui, elle, était protestante, très évangélique dans ses convictions. Et donc, Élisabeth et Catherine lisaient chaque jour le Nouveau Testament en grec. Et donc, elle a pu être instruite près des Écritures. Et ça va rester avec elle. Ça va influencer ce qu'elle va mettre en place. À partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de réformes qui vont se faire à l'intérieur de l'Église anglicane, mais en même temps, l'Église anglicane n'ira pas jusqu'au bout de ces réformes. La semaine prochaine, on va parler davantage du mouvement puritain, d'accord? On dit des fois que l'Église anglicane, on la décrit comme étant de théologie protestante et de pratique catholique. Alors, si vous allez dans une Église anglicane, je vous le dis, là, si vous ne connaissez pas leur théologie, vous allez avoir le sentiment que vous rentrez dans une église catholique pratiquement. Ils ont enlevé un certain nombre de statuts dans l'église, mais ça se ressemble beaucoup. Les réformes n'iront pas jusqu'au bout pour aller vers les Écritures à fond, et il va y avoir des gens qui vont être chassés de l'église anglicane. On les appelle les « dissenters ». On va parler d'eux davantage la semaine prochaine, mais ces gens-là vont vivre en Angleterre en marge de l'Église officielle. Les protestants qui vont suivre le mouvement huguenot, puis les églises réformées avec Jean Calvin, les protestants d'Angleterre qui vont vouloir aller aussi loin que l'Église réformée, aussi loin que les huguenots, ces gens-là ne seront pas admis à l'école publique, ils n'auront pas le droit d'instruction. Alors, vous avez des gens qui viennent beaucoup plus tard, là, comme Charles Spurgeon, qui était un pasteur baptiste, était lui en Angleterre, faisait partie des dissenters, et il a été instruit par ses parents à la maison dans la bibliothèque de son père, d'accord? Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller à l'école publique, parce qu'il ne faisait pas partie de l'Église anglicane. Élisabeth va régner pendant 50 ans, ça va être 50 ans plus paisible, où les réformes vont pouvoir prendre place progressivement. C'est bon? On va terminer avec... petite question.
Ouais. Une grande différence avec l'Église catholique.
Mm. Le low anglican, qui est, elle, beaucoup plus simple dans ses bâtiments et dans ses... Gérard nous parle du low church puis du high church. C'est vrai, je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de l'étudier pour bien comprendre comment on fait pour les reconnaître aujourd'hui. Mais à l'intérieur de l'Église anglicane, il y a deux courants. Un qui est beaucoup moins nombreux, le low church. On m'a dit à plusieurs reprises que la reine d'Angleterre faisait partie du Low Church, et donc que ses convictions sont très, très, très évangéliques par rapport au salut. C'est ce que j'entends dire. On entend dire des choses même sur notre premier ministre aussi. On ne peut pas toutes les valider. Mais c'est ça. À l'intérieur de l'Église catholique, il y a le High Church et il y a le Low Church. D'accord? Et je ne pourrais pas vous dire tous les détails. Je sais que le Low Church est beaucoup plus évangélique, beaucoup plus attaché aux Écritures que le High Church l'est encore aujourd'hui. On va terminer avec un petit mot de prière. Éternel notre Dieu, Seigneur, tes voies sont mystérieuses. On le voit avec l'histoire du peuple d'Israël, avec Pharaon. Tu t'es servi, Seigneur, d'un homme qui était méchant, qui était dur, le livrant à sa propre méchanceté et en même temps faisant tout concourir au bien de ton peuple et de la gloire de ton nom, Seigneur. Je veux te bénir parce que tu as protégé l'Évangile en Angleterre malgré ces périodes de massacre, Seigneur. Et depuis cette époque, tant en Allemagne, tant avec les écrits de Calvin, en Suisse, en Angleterre, l'Évangile a pu recommencer à être répandu sur toute la terre, d'une manière que ça serait même difficile de voir comment on pourrait renverser ça aujourd'hui, Seigneur. Bien sûr, il y a des persécutions, il y en a encore aujourd'hui, et il va y en avoir d'autres, Seigneur. On voit les courants, on voit les pensées de notre monde, Seigneur, mais on voit bien que tu as placé ton évangile dans tellement de cœurs partout sur la terre depuis cette époque de la réforme. Avec les Écritures qui se répandent dans les langues des gens, dans la langue des peuples qui peuvent vraiment s'approprier individuellement l'Évangile. Et je veux te bénir pour ça. Seigneur, je veux te bénir pour ces hommes qui ont été d'un courage extraordinaire, ces femmes. Il y avait des épouses, ces hommes-là, Seigneur, et elles ont souffert. Certaines d'entre elles ont été mises à mort aussi. Elles ont dû appuyer au péril de leur vie, au péril de leur famille. Seigneur, ces gens-là se sont battus afin que nous puissions entendre l'Évangile. Et pour notre part, cette assemblée, une église baptiste, est directement tributaire de ces réformes qui se sont passées en Angleterre, d'où vont venir les puritains, puis après ça les baptistes. Et je veux te bénir pour ces gens qui ont osé se battre pour l'Évangile, Seigneur. Aide-nous à chérir en cette journée ta parole, à chérir dans nos cœurs ton sacrifice, Seigneur Jésus, à se l'approprier, à l'enseigner à nos enfants, Seigneur, comme cette dame l'a fait avec Élisabeth en lisant directement dans le grec. C'est fantastique. Et que nous puissions prendre à cœur d'instruire nos enfants dans ta parole afin qu'ils puissent eux-mêmes faire un choix pour toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bien, merci. Alors, la semaine prochaine, on s'en va voir les puritains ensemble. Et ce n'est pas des gens aussi plates qu'on le pense.